Jules Verne, sans dessus-dessous, chapitre 8. Comme dans Jupiter, a dit le président du Gun Club. Oui, comme dans Jupiter. Et lors de cette mémorable séance du meeting en l'honneur de Michel Ardan, fort à propos rappelé par l'orateur, si J.T. Maston s'était fougueusement écrié « Redressons l'axe terrestre !» c'est que l'audacieux et fantaisiste français, l'un des héros du voyage de la Terre à la Lune, le compagnon du président Barbicane et du capitaine Nicholl, venait d'entonner un hymne dithyrambique en l'honneur de la plus importante des planètes de notre monde solaire. Dans son superbe panégyrique, il ne s'était pas fait faute d'en célébrer les avantages spéciaux tels qu'ils vont être sommairement rapportés. Ainsi donc, d'après le problème résolu par le calculateur du Gun Club, un nouvel axe de rotation allait être substitué à l'ancien axe sur lequel la Terre tourne depuis que le monde est monde, suivant l'adage vulgaire. En outre, ce nouvel axe de rotation serait perpendiculaire au plan de son orbite. Dans ces conditions, la situation climatérique de l'ancien pôle Nord serait exactement égale à la situation actuelle de Trondheim en Norvège au printemps. Sa cuirasse paléocristique fondrait donc naturellement sous les rayons du Soleil. En même temps, les climats se distribueraient sur notre sphéroïde comme à la surface de Jupiter. En effet, l'inclinaison de l'axe de cette planète, ou en d'autres termes, l'angle que son axe de rotation fait avec le plan de son écliptique, est de 88 degrés 13 minutes. 1 degré et 47 minutes de plus, cet axe serait absolument perpendiculaire au plan de l'orbite qu'elle décrit autour du Soleil. D'ailleurs, il importe de bien le spécifier, l'effort que la société Barbicane & Co. allait tenter pour modifier les conditions actuelles de la Terre ne devait point tendre à proprement parler au redressement de son axe. Mécaniquement, aucune force, si considérable qu'elle fût, ne saurait produire un tel résultat. La Terre n'est pas comme une poularde à la broche qui tourne autour d'un axe matériel que l'on puisse prendre à la main et déplacer à volonté. Mais en somme, la création d'un nouvel axe était possible, on dira même facile à obtenir, du moment que le point d'appui, rêvé par Archimède, et le levier imaginé par J.T. Maston étaient à la disposition de ces audacieux ingénieurs. Toutefois, puisqu'ils paraissaient décidés à tenir leur invention secrète jusqu'à nouvel ordre, il fallait se borner à en étudier les conséquences. C'est ce que firent tout d'abord les journaux et les revues, en rappelant aux savants, en apprenant aux ignorants, ce qui résultait pour Jupiter de la perpendicularité approximative de son axe sur le plan de son orbite. Jupiter, qui fait partie du monde solaire, comme Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Saturne, Uranus et Neptune, circule à près de 200 millions de lieues du foyer commun, son volume étant environ 1300 fois celui de la Terre. Or, s'il existe une vie jovienne, c'est-à-dire s'il y a des habitants à la surface de Jupiter, voici quels sont les avantages certains que leur offre la dite planète, avantages si fantaisistement mis en relief lors du mémorable meeting qui avait précédé le voyage à la Lune. Et en premier lieu, pendant la révolution diurne de Jupiter, qui ne dure que 9h55, les jours sont constamment égaux aux nuits par n'importe quelle latitude, soit 4h57 pour le jour, 4h57 pour la nuit. Voilà, firent observer les partisans de l'existence des Joviens, voilà qui convient aux gens d'habitude régulière. Ils seront enchantés de se soumettre à cette régularité. Eh bien, c'est ce qui se produirait sur la Terre si le président Barbicane accomplissait son œuvre. Seulement, comme le mouvement de rotation sur le nouvel axe terrestre ne serait ni accru ni amoindri, comme 24 heures sépareraient toujours deux midis successifs, les nuits et les jours seraient exactement de 12 heures en n'importe quel point de notre sphéroïde. Les crépuscules et les aubes allongeraient les jours d'une quantité toujours égale. On vivrait au milieu d'un équinoxe perpétuel, tel qu'il se produit le 21 mars et le 21 septembre sur toutes les latitudes du globe, lorsque l'astre radieux décrit sa courbe apparente dans le plan de l'équateur. Mais le phénomène climatérique le plus curieux, et non le moins intéressant, ajoutaient avec raison les enthousiastes, ce sera l'absence de saison. En effet, c'est grâce à l'inclinaison de l'axe sur le plan de l'orbite que se produisent ces variations annuelles connues sous les noms de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Or, les Joviens ne connaissent rien de ces saisons, donc les terrestriens ne les connaîtraient plus. Du moment que le nouvel axe serait perpendiculaire à l'écliptique, il n'y aurait ni zone glaciale, ni zone torride, mais toute la Terre jouirait d'une zone tempérée. Voici pourquoi. Qu'est-ce que c'est que la zone torride ? C'est la partie de la surface du globe, comprise entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Tous les points de cette zone jouissent de la propriété de voir le Soleil deux fois par an à leur zénith, tandis que pour les points des tropiques, ce phénomène ne se produit annuellement qu'une fois. Qu'est-ce que c'est que la zone tempérée ? C'est la partie qui comprend les régions situées entre les tropiques et les cercles polaires, entre 23 degrés 28 minutes et 66 degrés 72 minutes de latitude, et pour lesquelles le Soleil ne s'élève jamais jusqu'au zénith, mais paraît tous les jours au-dessus de l'horizon. Qu'est-ce que c'est que la zone glaciale ? C'est cette partie des régions circumpolaires que le Soleil abandonne complètement pendant un laps de temps qui, pour le pôle même, peut aller jusqu'à 6 mois. On le comprend. Une conséquence des diverses hauteurs que peut atteindre le Soleil au-dessus de l'horizon, c'est qu'il en résulte une chaleur excessive pour la zone torride, une chaleur modérée mais variable à mesure qu'on s'éloigne des tropiques pour la zone tempérée, un froid excessif pour la zone glaciale depuis les cercles polaires jusqu'au pôle. Eh bien, les choses ne se passeraient plus ainsi à la surface de la Terre par suite de la perpendicularité du nouvel axe. Le Soleil se maintiendrait immuablement dans le plan de l'équateur. Durant toute l'année, il tracerait pendant 12 heures sa course imperturbable en montant jusqu'à une distance du zénith égale à la latitude du lieu, par conséquent d'autant plus haut que le point est plus voisin de l'équateur. Ainsi, pour les pays situés par 20 degrés de latitude, il s'élèverait chaque jour jusqu'à 70 degrés au-dessus de l'horizon. Pour les pays situés par 49 degrés, jusqu'à 41. Pour les points situés sur le 67e parallèle, jusqu'à 23 degrés. Donc, les jours conserveraient une régularité parfaite, mesurée par le Soleil, qui se lèverait et se coucherait toutes les 12 heures au même point de l'horizon. « Et voyez les avantages !» répétaient les amis du président Barbicane. « Chacun, suivant son tempérament, pourra choisir le climat invariable qui conviendra à ses rhumes ou à ses rhumatismes, sur un globe où l'on ne connaîtra plus les variations de chaleur actuellement si regrettables. » En résumé, Barbicane & Co., titan moderne, allait modifier l'état de choses qui existait depuis l'époque où le sphéroïde terrestre, penché sur son orbite, s'était concentré pour devenir la Terre telle qu'elle est. À la vérité, l'observateur y perdrait quelques-unes des constellations ou étoiles qu'il est habitué à voir sur le champ du ciel. Le poste n'aurait plus les longues nuits d'hiver ni les longs jours d'été à encadrer dans ses rimes modernes avec la consonne d'appui, mais, en somme, quel profit pour la généralité des humains ? De plus, répétaient les journaux dévoués au président Barbicane, puisque les productions du sol terrestre seront régularisées, l'agronome pourra distribuer à chaque espèce végétale la température qui lui paraîtra favorable. « Bon, » ripostaient les feuilles ennemies, « est-ce qu'il n'y aura pas toujours des pluies, des grêles, des tempêtes, des trombes, des orages, tous ces météores qui parfois compromettent si gravement l'avenir des récoltes et la fortune des cultivateurs ?»« Sans doute, » reprenait le cœur des amis, « mais ces désastres seront probablement plus rares par suite de la régularité climatérique qui empêchera les troubles de l'atmosphère. Oui, l'humanité profitera grandement de ce nouvel état de choses. Oui, ce sera la véritable transformation du globe terrestre. Oui, Barbicane & Co. auront rendu service aux générations présentes et futures en détruisant, avec l'inégalité des jours et des nuits, la diversité fâcheuse des saisons. » Oui, comme le disait Michel Ardan, notre sphéroïde, à la surface duquel il fait toujours trop chaud ou trop froid, ne sera plus la planète aux rhumes, aux coryzas, aux fluxions de poitrine. Il n'y aura d'enrhumés que ceux qui le voudront bien, puisqu'il leur sera toujours loisible d'aller habiter un pays convenable à leurs bronches. Et dans son numéro du 27 décembre, le Sun de New York termina le plus éloquent des articles en s'écriant « Honneur au président Barbicane et à ses collègues, non seulement ces audacieux auront, pour ainsi dire, annexé une nouvelle province au continent américain et par là même agrandi le champ déjà si vaste de la Confédération, mais ils auront rendu la Terre plus hygiéniquement habitable et aussi plus productive puisqu'on pourra semer dès qu'on aura récolté et que le grain germant sans retard, il n'y aura plus de temps perdu en hiver. » Non seulement les richesses houillères se seront accrues par l'exploitation de nouveaux gisements, qui assureront la consommation de cette indispensable matière pendant de longues années peut-être, mais les conditions climatériques de notre globe se seront transformées à son avantage. Barbicane et ses collègues auront modifié pour le plus grand bien de leurs semblables l'œuvre du Créateur. Honneur à ces hommes qui prendront le premier rang parmi les bienfaiteurs de l'humanité.